Les racontars de Citrouille Amère. 10 minutes pour une œuvre d'art. Bonsoir. Voici un nouveau racontar. À l'occasion de l'exposition du Musée du Luxembourg sur les femmes peintres, je vous présente une œuvre réalisée par une femme. Dans la peinture, il y a peu de femmes. Et si je vous demandais de m'en citer quelques-unes, je ne pense pas que vous pourriez m'en nommer plus d'une dizaine. Ce tableau, à première vue, ne retient guère l'attention. Et pourtant, le tableau se situe dans un atelier d'artiste, où il règne un désordre créatif. Le fond est dans la pénombre. Le premier plan, construit sur une diagonale qui part du coin supérieur gauche vers le coin inférieur droit. Cette diagonale est éclairée par une lumière venant de la gauche. La diagonale s'ouvre par un chapeau de femme, décloré de plumes, posé négligemment sur deux poutis, des angelots. Un des poutis, debout, soutient son acolyte assis. Tous deux regardent vers le bas. Ils sont posés sur une console couverte d'une nappe rouge jetée en désordre. La diagonale se poursuit par une gravure encadrée tenue par une jeune femme vêtue d'une grande robe de satin blanc. La coiffure de la demoiselle est élaborée. Elle est rehaussée du même ruban rose que celui qui décore le haut des manches de sa robe. La diagonale se termine par un chat perturbant le sommeil d'un chien dormant sur un tabouret. Dans le coin inférieur gauche, une sorcière. Les sorcières étaient des miroirs convexes, courant dans les intérieurs de la bourgeoisie et de la noblesse du XVIIIe siècle. Jusqu'alors, on ne savait pas fabriquer de miroirs plans. À droite, à la hauteur des reins de la jeune femme, une tasse, dans sa soucoupe, est posée sur une table. Les hauts rebords de la soucoupe devraient vous surprendre. Il y a une explication à cela. Au XVIIIe siècle, l'Occident se prend de passion pour les boissons exotiques, thé, café, chocolat. L'usage, alors, est de servir ces boissons sans sucre et brûlant. Pour refroidir ces breuvages, on versait le liquide dans la soucoupe et l'on buvait le contenu. Cet usage persiste encore aujourd'hui dans les pays d'Orient. Voilà, c'est l'élève intéressante, huile sur toile, de 64 par 55, peint par Marguerite Gérard en 1786, conservée au musée du Louvre. Marguerite Gérard, lorsqu'elle peint ce tableau, n'a que 19 ans. Elle est la sœur de l'épouse de Fragonard. À l'âge de 14 ans, elle vient vivre dans la famille de Fragonard. Fragonard lui donne une formation artistique. Leur collaboration ira jusqu'à signer conjointement des œuvres. Malgré son talent précoce, elle ne sera jamais admise à l'Académie royale des beaux-arts, en raison d'une règle insupportable aujourd'hui. Cette règle stipule qu'il ne peut y avoir pas plus de 4 académiciennes simultanément. Malgré cela, elle fera une très belle carrière artistique. Revenons à la jeune femme du tableau. Elle regarde une gravure. D'ordinaire, dans les tableaux, la femme se donne à voir et les hommes regardent. Ici, c'est une complète inversion. Elle regarde. Mais que regarde-t-elle? Une gravure d'un tableau célèbre de Fragonard, La Fontaine de l'Amour. Le tableau représente un couple d'amoureux se précipitant vers une fontaine entourée d'une multitude de poutis volants. Ils ont hâte d'étancher le désir amoureux qui les brûle. Nous savons qu'elle observe une gravure, car le motif est inversé par rapport au tableau. Mais à quoi rêve la demoiselle ? À l'amour, bien sûr. C'est ce qu'illustre la diagonale. Les poutis, symbole de l'amour. La gravure, une évocation des feux de l'amour. Tout cela est bien joli, certes. Mais le chat et le chien nous rappellent qu'en amour, tout n'est pas si simple. Rêve-t-elle seule dans cet atelier ? Eh bien non. Si nous regardons attentivement le reflet renvoyé par la sorcière, nous constatons la présence d'autres personnages. Deux femmes assises, derrière elles un homme debout, tandis que devant le groupe de spectateurs, un homme commente un tableau accroché au mur. Nous nous trouvons probablement dans l'atelier de Fragona. Par cette indication, elle marque son attachement à son mentor, une façon de déclarer « Oui, je suis une élève de Fragonard. » Par la grande diagonale qui structure le tableau, elle cite encore son maître. En effet, Fragonard avait l'habitude de structurer ses œuvres par une grande diagonale qui dit toute l'histoire. Attardons-nous un moment pour admirer la virtuosité de Marguerite Gérard. Voyez le brillant du satin de la robe, le rendu vaporeux de la gaze du décolleté et des emmanchures de la robe. La maîtrise avec laquelle elle représente le reflet de la manche droite de la robe sur le vert protecteur de la gravure. La légèreté de l'exécution des plumes, le rendu de la fourrure du chat et du chien. Mais peut-être le plus remarquable est le traitement pictural du reflet dans la sorcière. Et cela à peine 19 ans. Marguerite Gérard fut une candidate malheureuse à l'admission à l'Académie des Beaux-Arts, comme je vous le disais précédemment. Mais qu'était l'Académie ? Quels étaient ses objectifs ? Lorsqu'elle est créée, en 1648, par une femme, la régente Anne d'Autriche, mère de Louis XIV. Sa raison première est de former des artistes de haut niveau capables de rivaliser avec les meilleurs artistes italiens. Les meilleurs, sélectionnés par le concours du Prix de Rome, partent à Rome peaufiner leurs talents. Pendant le séjour, ils doivent envoyer à Paris des copies d'œuvres antiques dans le but de décorer les demeures royales. L'Académie a plusieurs grades. Le plus prestigieux est le grand genre, c'est-à-dire la peinture historique ou mythologique. Le moins apprécié, la peinture de fleurs. L'Académie est essentiellement masculine. Les femmes sont admises, certes, mais dans des conditions où elles n'ont guère qu'une reconnaissance honorifique. Leur nombre est très limité. Pas plus de 4. Autrement dit, il faut que l'une d'elles meure pour pouvoir admettre une autre femme au sein de l'Académie. La formation des femmes est très limitée. Elles ne peuvent pas faire de copies d'antiques. Elles n'ont pas le droit de participer aux séances de pose sur modèle vivant. Elles n'ont pas le droit de suivre les conférences données par les professeurs de l'Académie. Et pour finir, elles ne peuvent pas participer au concours du Prix de Rome. Entre sa création en 1648 et 1793, moment où le mot « royal » disparaît de son nom, on ne compte qu'une vingtaine d'académiciennes. Malgré ces difficultés, quelques femmes vont trouver le moyen de transgresser ces règles. Comme Rosalba Carriera, bien que vénitienne, elle est élue à l'unanimité académicienne. Elle sera la première femme à pouvoir assister aux conférences. Elle aura même le privilège de pouvoir donner une leçon. Ou encore, Élisabeth Vigier-Lebrun, reçue après bien des turpitudes. On lui reproche d'être une femme, la profession de son mari. Elle doit aussi affronter la forte concurrence d'une rivale. mais grâce à l'appui soutenu de la reine Marie-Antoinette, dont elle est la portraitiste attitrée, elle est admise. Sa pièce de réception, c'est le nom que l'on donne à l'œuvre soumise pour postuler à l'Académie, s'intitule « La paix, ramenons l'abondance ». Une œuvre évoquant la fin de la guerre d'indépendance américaine. Elle frise le scandale, car elle ose représenter un saint nu. Le nu académique est réservé uniquement aux hommes. Par l'œuvre d'une jeune femme peintre, j'ai évoqué les difficultés pour les femmes de mener une carrière artistique. Les racontars de Citrouille Amère se terminent ici, pour ce soir. On se retrouve dans 15 jours.
Oublie le père adieu.